Chapitre 27. Elsa. Hier soir, j'ai autorisé mon fils à dormir chez son copain Jean-Pierre, malgré son prénom. Je connais à peine ses parents. Je les ai croisés à une réunion au collège. Mais j'ai bien conscience que je ne peux pas emballer mon enfant dans du papier bulle. À la rentrée, il commence un apprentissage pour devenir cuisinier. Tous ses copains partent au lycée, et il faut qu'il continue à les voir et que je me fasse un peu violence. À 1 h du matin, j'ai été réveillée par le téléphone. Je m'étais endormie sur le canapé, la télécommande incrustée dans la joue. La mère de Jean-Pierre m'a demandé de venir rapidement, la voix fébrile, Tristan était malade. J'ai eu le temps de tout imaginer sur le trajet. Tout, sauf ce que j'ai trouvé. Mon bébé d'1,75 m était incapable d'aligner 3 mots et avait retapissé la chambre de vomi. Son copain n'était pas en reste. Je n'ai rien pu distinguer qui ressemblait à une phrase. On aurait dit un élan en train de bramer. Il y avait une bouteille de whisky à moitié vide sur la table de chevet. J'ai ramené l'enfant bourré à la maison, j'ai posé une bassine à côté de son lit et j'ai tiré un fauteuil dans sa chambre pour rester avec lui. Il s'est réveillé avec la gueule de bois et une haleine à dégivrer des frigos. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. « Pas maintenant, maman, j'ai mal à la tête. »« Crois-moi, je vais tellement te faire la morale que tu vas avoir mal à la tête pendant 10 jours. »« Putain, t'es relou. » Il a disparu sous sa couette. Je l'ai retiré. « Alors, déjà, tu ne me parles pas comme ça ?»« Je suis ta mère, pas ta copine, » j'ai dit, en entendant ma mère tenir les mêmes propos au même âge. « Tu te rends compte que ça aurait pu être grave ?»« Maman, s'il te plaît. »« Non, tu m'écoutes !» Je te préviens des dangers de l'alcool depuis longtemps. Je sais que je ne t'empêcherai pas de boire, c'est inévitable. Mais tu dois comprendre que se mettre minable comme tu l'as fait est très dangereux. T'aurais pu faire un coma éthylique, voire y rester. J'étais furax. Plus que nécessaire. Je ponctuais mes phrases de grands gestes et je parlais de plus en plus fort. C'est de l'inconscience, Tristan. Tu es puni. Interdiction de sortir le soir ou d'aller dormir chez un copain jusqu'à nouvel ordre. Il s'est redressé dans son lit, les larmes aux yeux. « Tu crois que t'es la seule à être triste ?» Ces mots ont fait vaciller ma colère. Je l'ai pris dans mes bras et on a pleuré tous les deux. « J'ai très peur de l'alcool, docteur. Je connais son pouvoir. Certains soirs, je ressens le besoin de me servir un verre. J'essaie de me raisonner, de penser à autre chose. » Mais une fois que l'envie s'est plantée dans mon cerveau, la seule manière de la déloger est de l'assouvir. J'ai peur parce que j'aime la sensation du liquide qui coule dans ma gorge, qui réchauffe mon corps, qui détend mes muscles. J'ai peur parce que c'est trop souvent une solution, la réponse simple à une angoisse, à une appréhension, à ma tristesse. J'ai peur parce que je connais les dégâts de l'alcool. Mon père a commencé à boire à l'adolescence. Le sien était violent et alcoolique, ça n'a pas aidé. La violence, mon père a su la tenir loin de nous. Il était même incapable de tuer un moustique. Mais l'alcool a eu des racines plus tenaces. Il s'est calmé sur sa consommation quand il a rencontré ma mère. Il est même devenu sobre à la naissance de mon petit frère. Pendant toute la durée de leur mariage, ils ne buvaient jamais la semaine. C'était son activité du week-end, comme un sport dont il ne loupait aucun entraînement. Je n'ai jamais remarqué quoi que ce soit. Ma mère protégeait notre innocence. C'est à leur divorce que j'ai compris. Un week-end sur deux et la moitié des vacances, on a cohabité avec son addiction. Il n'y avait pas de bouteille sur la table, ni dans le buffet. Je ne le voyais avaler que de l'eau et du café. Le vin, une piquette premier prix, était dans sa boîte à outils, dans la panière à linge, dans le placard des toilettes, dilué dans la tasse. Il finissait bourré à 14 h, la tête qui pendait sur son torse. Et tous les projets de la journée tombaient à l'eau. Parfois, il nous emmenait dans un bar, toujours le même, un repère de poivreaux. On y passait une partie de la journée à manger les cacahuètes du distributeur, à jouer avec d'autres gamins qui n'avaient rien à faire là, et à espérer que notre père n'en boirait pas un de plus. D'autres soirs, le vendredi en général, ses potes de beuverie se pointaient chez nous. J'entends encore le tintement des bouteilles dans les sacs plastiques, et leur rire gras. Plus d'une fois, je l'ai ramassé par terre. Le lendemain, il avait tout oublié. Je ne lui en voulais pas. Je tenais ma mère pour seule responsable, persuadée que son départ était la cause de cette situation. Quand je suis entrée en quatrième, un an et demi après leur séparation, mon père était au chômage et buvait tous les jours. Il m'a dit qu'il ne supportait pas la solitude. Alors j'ai passé un pacte avec lui. Il arrêtait de boire et je venais vivre chez lui la moitié du temps. Je suis la seule à avoir respecté ma part du contrat. J'ai tenu ce rythme pendant 2 ans, jusqu'à la fin du collège. J'ai passé 2 ans à aller mal. Non pas 1 semaine sur 2, mais 2 semaines sur 2. La première parce que j'étais chez lui, confrontée à son mal-être, à ses bouteilles cachées, à ses comas éthyliques, à ma peur. La seconde parce que si je souffrais de le savoir seul, je redoutais pourtant chaque jour qui me rapprochait de ma semaine chez lui. Les mois puis les années passant, je ne supportais plus son rire triste, son regard éteint, ses mots désarticulés, comme s'il avait une patate chaude dans la bouche. J'avais envie de l'insulter quand il titubait dans le couloir, que ses épaules se cognaient contre les murs, quand il ne trouvait pas l'interrupteur, quand il pissait à côté de la cuvette. J'aurais pu le buter quand il essayait d'allumer sa clope pendant 10 minutes, alors qu'il tenait la flamme à 20 centimètres de la cigarette. Il y a quelques mois seulement, et pour la première fois depuis que je suis adulte, nous en avons parlé ensemble. Il m'a avoué que l'addiction était si forte à cette période qu'il avait hâte qu'on reparte pour boire sans avoir à se cacher. Il avait 58 ans quand il a réussi à s'en défaire. J'ai d'abord pensé à une énième tentative. Je me suis efforcée de ne pas trop y croire. On ne s'habitue pas à être déçu par son père. Chaque échec est une entaille. Cette fois-ci a été la bonne. L'alcool lui a tout pris. Sa femme, ses enfants, son travail, la majeure partie de sa vie et de sa dignité. Surtout, il nous a volé plein de bons souvenirs. C'est peut-être cela que j'aurais dû dire à mon fils, au lieu d'essayer de crier plus fort que ma détresse.